Eh bien, amis auditeurs, nous nous retrouvons donc pour la deuxième moitié de cette émission Rencontre. Alors, je rappelle que le sujet ce matin est Islam et judaïsme, retour aux origines. Mon invité est Madame Tania Heitzig. Tania Heitzig a travaillé pendant plus de 20 ans avec André Chouraki sur les traductions de la Bible, du Coran. Et elle est l'auteur d'un ouvrage monumental de 550 pages, Au nom du Père et des Fils, qui est édité chez Éric Bonnier. On va parler maintenant de l'aspect donc, vraiment historique, hein, la naissance de l'islam. Et donc, dans votre chapitre 6, intitulé « Les enfants d'Ismaël et les fils d'Israël », vous racontez ça, je dois dire, sa lecture n'est pas simple, parce que en fait, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le texte, hein, tel que traduit par André Chouraki, et donc toutes les sourates du Coran, et puis le contexte historique, géographique et culturel. Alors, le fil conducteur est le récit coranique, hein, en partant de la première vision du prophète Mohammed, et en finissant par sa victoire avec la soumission de la Mecque après des années de combat. Que sait-on déjà de la situation des Juifs d'Arabie avant la naissance de l'islam ?
Bien, ils ont été dispersés depuis le fond des âges par les fatalités de l'histoire. Dès 586, le moment de la destruction du premier temple. Donc, la diaspora juive arabique est devenue pionnière parmi les tout premiers sédentaires de la péninsule arabique, dont elle a peuplé durant des siècles, avant l'apparition de l'islam, du nord au sud, les principales oasis, et majoritairement Médine, mais aussi les autres oasis s'échelonnant jusqu'au nord. Et elles étaient dans une position dominante par rapport à ceux qui sont venus s'établir venant du sud, les Arabes du sud du Yémen, après le barrage fameux, la fameuse fracture du barrage de Marib. Et donc, ils étaient en position dominante au départ. Ils étaient même les protecteurs des fameux clans qui s'appelaient les Haous et les Khazraj.
Donc une position forte, très vite par rapport aux chrétiens. Il y en avait aussi en Arabie.
Oui.
Il y en avait.
Oui.
Et quels étaient les textes des traditions, alors aussi bien juives que chrétiennes, qui étaient connues des Arabes avant l'islam ? Alors peut-être très peu de gens les connaissaient, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est une
par
tradition.
Par les traditions orales.
Par les traditions orales.
Oui, tout à fait.
Les gens ne le lisaient pas, en fait.
Voilà. Non, le prophète disait lui-même que se comptait sur les doigts de la main ceux qui, parmi les Arabes, étaient lettrés. Non. D'ailleurs, les familles aisées de Médine, arabes, donnaient leurs enfants à éduquer dans les fameuses Bayt al-Midras, c'est-à-dire les maisons d'études juives, rabbiniques, talmudiques.
Voilà. Vous dites aussi, ça m'a marqué, que la figure d'Abraham était connue quelque part. On savait qu'il existait. Vous dites aussi que parmi les idoles, hein, les centaines d'idoles qui étaient donc à la Kaaba, hein, à la Mecque, il y avait des icônes représentant Jésus et Marie, ce qui est étonnant.
Oui. Abraham, il en est parlé dans le Coran, c'est-à-dire dans les sourates dites de l'époque mécoise, d'une manière différente. Il était un prophète parmi les autres. Par contre, à partir du moment où, arrivé à Médine, on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce que serait devenu le Coran si le prophète n'avait pas eu à lutter contre l'hostilité des Mécois à sa parole, ce qui l'a porté à venir se réfugier à Médine, sa ville maternelle.
Oui, il a été chassé effectivement par les dirigeants de la Mecque. Et
il s'est donc trouvé confronté au judaïsme médinois qui lui était implanté depuis des siècles.
Était puissant en même temps.
Et puissant.
Était puissant. Alors justement, on arrive à cet passage historique. Hein. Donc le texte rappelle comment, en l'espace de moins de 18 mois, le même prophète de l'islam, qui était venu construire sa première mosquée dans un lieu rituel juif, hein, à Médine.
Bon, qui avait, à Kouba, dans le quartier sud, oui.
Voilà, et qui avait instauré des fêtes qui étaient extrêmement proches du judaïsme. Bien, il va totalement modifier les rites de la nouvelle religion. Prenons l'orientation, hein, la Qibla, ce n'est plus vers Jérusalem, c'est vers la Mecque. Et des fêtes nouvelles comme le Ramadan, etc. Alors, ça va finir très mal pour les trois tribus juives de Médine, hein, les Banu Quraïza, les Banu Al-Nadir et les Banu Quneika, puis pour tous les juifs d'Arabie, parce que après le prophète, tous ont été expulsés par le premier calife Omar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer cela ?
À son arrivée à Médine, le prophète il a été confronté à tous les problèmes à la fois. Il fallait qu'il organise la Oumma musulmane, qu'il fasse venir sa famille, qu'il se marie à nouveau, qu'il pacifie les tensions locales, parce que cette ville était en attente aussi d'un pacificateur. Parachever les premiers accords passés avec les dirigeants de Médine, légiférer, pourvoir aux besoins des émigrants. Enfin, c'était d'une complexité incroyable, les débuts du prophète à Médine. Et puis, faire face surtout à l'hostilité de la Mecque, qui ne pouvait voir d'un œil serein l'émergence à Médine d'une entité politique et religieuse,
rival, oui,
exerçant une souveraineté juridictionnelle, très vite perçue comme pouvant rivaliser avec l'hégémonie mécoise. Donc, il s'est trouvé confronté au judaïsme médinois et il a pu penser au départ que toute sa parole dite à la Mecque, au fond, pouvait être entendue de manière tout à fait bienveillante par les rabbins de Médine. Oui. Mais à mesure que s'est affirmée son autorité juridictionnelle de législateur voulant faire de la communauté médinoise une unité, bien, les rabbins de Médine ne pouvaient pas se laisser islamiser en arabe comme hindouiser en Inde, dans toute leur diaspora.
C'est la résistance finalement du judaïsme.
La fidélité à la Torah, tout simplement, qui primait en tout.
À la Torah. Mais dans le fond, finalement, vous savez, il y a deux approches. Il y a une approche, on va dire, contextuelle, hein, c'est-à-dire, bon, c'est un conflit essentiellement politique. Lui avait besoin d'alliés, les juifs ne l'ont pas suivi, d'où... le fait qu'ensuite une tribu a été exterminée, tous ont été expulsés. Bon. Mais il y a aussi le syndrome de Babel. Est-ce que ce n'était pas déjà une volonté d'effacer la religion précédente? Parce que ça, c'est l'approche pessimiste.
Ça, je pense que c'est venu à la fin tout à fait, parce que c'est une très très grande complexité, la réalité qu'il a vécue à Médine, parce que les Juifs étaient confédérés avec les clans arabes, ils étaient leurs alliés, ils étaient les protecteurs les uns des autres. Alors cette situation de protection mutuelle a fini par se détériorer à mesure que Muhammad avait à faire ses guerres contre la Mecque, à mesure qu'il est devenu victorieux, par exemple à Badr, la fameuse victoire de Badr, qui l'a rendu beaucoup plus fort ensuite pour s'affirmer, se différencier finalement du judaïsme.
Très bien. Alors, le temps file, il nous reste 5 minutes. Il y a une question, essayez de répondre vite parce que la suivante est aussi très importante. Il y a une contradiction entre, quand on lit le Coran, les passages élogieux sur les Banu Israël, les fils d'Israël, leur histoire sainte, etc., et puis des versets qui ne parlent pas du tout en termes élogieux des Juifs. J'ai noté que les fameux versets anti-juifs dont je parlais dans mon introduction, vous n'y faites pas référence. Est-ce que c'était volontaire, de même que les versets anti-chrétiens, en quelque sorte pour ne pas mettre de l'huile sur le feu?
Alors, à mesure que la polémique enflait avec argumentation réciproque par rapport aux écrits fondateurs des uns et des autres, s'est fait jour une accusation de falsification des textes.
Voilà.
Bien. Cette accusation, évidemment, il s'agit d'abord d'une construction ultérieure qui est liée au conflit qui ont entouré le développement historique de l'islam, sa fulgurante expansion conquérante ayant entraîné la dispersion des musulmans. Ceux-ci se trouvent en situation minoritaire dans les pays conquis et se devaient d'établir les bases légitimantes de leur distinction d'avec les non-musulmans.
C'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'après l'égir en fait, après donc l'établissement des piliers de l'islam par le prophète, etc., conquête arabe d'un certain nombre de régions, mais en fait les Arabes qui sont eux-mêmes musulmans sont minoritaires par rapport aux peuples qui sont venus envahir.
Ben oui.
Et d'où nécessité finalement de déconsidérer les autres religions,
selon un processus de différenciation lié à l'extension des territoires soumis à l'autorité islamique dans l'empire musulman naissant.
Voilà. Donc vraiment une raison politique au fond.
Cela dit, le thème de falsification ou altération de la parole divine revient en 8 sourates ou occurrences dans le Coran.
Déjà.
Oui. Ça fait partie de la polémique qui enfle à mesure que le prophète se sent de plus en plus fort et que les Juifs se sont affaiblis du fait que leurs confédérés eux-mêmes deviennent eux-mêmes musulmans. Donc voilà, les accusations de falsification dans le Coran, par exemple, ceux qui falsifient le verbe fraude, tronquant ce qui leur a été dit. Parmi ceux qui judaïsent, certains altèrent la parole de son sens. C'est le Coran qui le dit. Je pense qu'il a aussi voulu stigmatiser peut-être la non-fidélité, comme on pourrait le faire en tout milieu, même aujourd'hui, chrétien, musulman ou juif, d'être infidèle à une parole simplement par nos actes.
Oui, oui. Mais ça ressemble
un peu. Ça s'appelle altérer le sens des paroles.
Absolument, mais ça ressemble un peu plus, je dirais, à l'anti-judaïsme chrétien des origines, c'est-à-dire vous n'avez pas été fidèle à la parole de l'Éternel, vous alors les pharisiens, les marchands du temple, etc.
Voilà. Ah, bon, et, voilà. Et se servant pour argumenter des propres textes bibliques dont les prophètes reprochent au peuple d'Israël ses infidélités.
Tout à fait. Mais en même temps, si vous voulez, la gravité, c'est encore une fois cette notion de falsification. C'est pas facile.
Oui, il y a aussi une notion de traduction peut-être. Oui. Altération. Chouraki traduit altérer. Altérer les textes. Altérer le sens des paroles.
Eh bien... Malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'était passionnant. Merci, Tania Itzik. Je rappelle une dernière fois votre ouvrage « Au nom du Père et des Fils ». C'est passionnant sur les origines du christianisme et de l'islam par rapport au judaïsme aux éditions Éric Bonnier. Merci à mes auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir.
Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.